J'ai plaisir à laisser la parole aujourd'hui à Jean-Christophe Becquet, vice-président de l'April, qui va animer le sujet principal du jour avec ses deux invités. N'hésitez pas à participer à notre conversation, enfin à leur conversation, au 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton chat. Alors Jean-Christophe, si j'ai bien compris, vous allez nous parler de Jupiter, mais il ne s'agira ni d'astronomie ni de monarchie républicaine.
Absolument, il va s'agir de logiciels libres. Alors, mes invités vous expliqueront, hein, mais le Jupiter est un logiciel de calcul scientifique et moi je ne connais rien au calcul scientifique. L'objectif et la ligne directrice qu'on s'est donnée pour cette émission, c'est vraiment de parler de Jupiter en tant que logiciel libre. Donc pour ça, j'accueille aujourd'hui du coup Sylvain Corlet. Sylvain Corlet est le fondateur et dirigeant de l'entreprise QuantStack, qui est développeuse de logiciels de calcul scientifique. Il est également membre du conseil d'administration de la fondation NumFocus, qui soutient le développement de logiciels libres de calcul scientifique. Il nous expliquera dans le détail tout à l'heure. Et enfin, il fait partie des développeurs principaux Core Dev en anglais du projet Jupiter. Sylvain donc, et puis Nicolas Thierry. Alors Nicolas est enseignant-chercheur, il est professeur d'informatique à l'université de Paris-Saclay. Et en fait, Nicolas, on se connaît pas depuis longtemps, mais par contre, je sais qu'il a grandi dans le logiciel libre, parce que au début du siècle, j'ai fait des conférences avec son papa, Jean Thierry, sur le logiciel libre. Donc, je pense que Nicolas connaît très bien le logiciel libre depuis longtemps. Mais je vais, pour commencer cette émission, proposer à Sylvain et Nicolas de se présenter un petit peu plus longuement avant de rentrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui, l'écosystème Jupiter. Sylvain, deux mots de présentation.
Oui, bonjour et merci pour l'invitation. Je suis le président de la société QuantStack. QuantStack, c'est une société française, un éditeur de logiciels libres qui rassemble les mainteneurs de nombreux projets libres pour le calcul scientifique. On est basé en France, mais avec des salariés en France, en Allemagne, au Royaume-Uni et en Autriche. Et par ailleurs, un des directeurs, enfin des membres du conseil d'administration de la fondation NumFocus, qui est une fondation pour logiciels libres, un peu comme la fondation Mozilla, la fondation Linux ou Apache, mais spécialisée dans le calcul scientifique et les logiciels pour le calcul scientifique. Et enfin, j'anime un meetup en région parisienne qui s'appelle le Meetup PyData à Paris, qui compte à peu près 4000 membres, et on organise des séminaires tous les 2-3 mois environ en région parisienne.
Merci Sylvain. Nicolas ?
Bonjour Jean-Christophe, merci pour l'invitation. Donc comme tu as dit, je suis tombé dans le libre assez petit. Et en fait, je suis retombé dedans un peu plus formellement dans à peu près aux années 95-96. Assez rapidement, j'ai voulu essayer de combiner mes deux passions, c'est-à-dire d'un côté le logiciel libre et pousser le logiciel libre, et puis mes métiers, et donc en l'occurrence mon métier d'enseignant et de chercheur. Alors ça a commencé avec la recherche, puisque je suis dans un domaine où on utilise beaucoup le calcul pour avancer les mathématiques, pour explorer. Et du coup, on a besoin de logiciels, et j'ai trouvé que dans mon domaine, on utilisait beaucoup des logiciels qui n'étaient pas libres, et ce qui posait un certain nombre de problématiques, notamment en termes de compréhension de ce qu'on voulait faire avec. Et donc j'ai essayé d'animer, de pousser ma communauté à utiliser du libre pour faire le calcul en mathématiques, et notamment j'ai assez rapidement contribué à un logiciel qui s'appelle SageMath. Et puis plus tard, pour différentes raisons, pour des questions de changement de focus dans ce que je faisais dans mon métier, et puis aussi ça, les questions de Covid ont influencé là-dedans, je me suis intéressé tout particulièrement à l'utilisation, là encore, développement et utilisation de logiciels libres, mais cette fois plus pour l'enseignement, avec notamment tout ce qui était infrastructure et logiciels qui peuvent accompagner l'enseignement de la programmation et du calcul.
Merci Nicolas, mais alors Jupiter n'est pas une planète, tu peux nous dire en quelques mots compréhensibles par le grand public, qu'est-ce que c'est ?
Alors ça va être très rapidement, et après il faudrait montrer des exemples pour vraiment rendre ça concret. Mais une première définition très rapide, c'est de dire que Jupyter, c'est un écosystème de logiciels, donc pas juste un logiciel, mais toute une myriade de logiciels qui fonctionnent ensemble, et qui, dont l'objectif, c'est d'aider à chaque fois qu'on veut faire du calcul, mais du calcul dans lequel on a de l'humain dans la boucle, donc avec une interaction très rapide avec l'humain. Alors pour essayer de rendre ça un petit peu plus concret, l'application phare s'appelle le carnet numérique. D'autres, Sylvain appellera ça le notebook. L'objectif du carnet numérique, c'est de pouvoir écrire dans des documents dans lesquels on va pas seulement pouvoir raconter des histoires, avoir de la narration, mais dans lesquels on va aussi pouvoir faire du calcul, pouvoir faire de la visualisation, pouvoir interagir avec les objets qu'on est en train de calculer, et puis lorsque c'est nécessaire, faire de la programmation. Et puis autour de tout cela, qui dit document, en fait, il y a toute une variété de documents auxquels on peut penser. Mais donc, il y a une pléthore d'outils pour faire des livres, faire des diapos, faire des documents qu'on peut distribuer en TP, des services en ligne pour faciliter l'accès à tout ceci.
Alors, Jean-Christophe Fred me fait remarquer, parce que c'était pas évident à l'oral, mais Jupyter s'écrit avec un Y et non pas un I. Donc, si vous le cherchez, voilà, notamment sur un moteur de recherche, tapez avec un Y, vous le trouverez plus facilement.
Et j'expliquerai juste après pourquoi. Ah.
Merci. Et donc du coup, ce que j'ai compris en discutant avec vous, c'est que Jupyter est un écosystème de logiciels extrêmement utilisé, plusieurs millions, dizaines de millions d'utilisateurs. Donc pour commencer l'émission, je propose qu'on passe un peu en revue les différents champs d'utilisation de Jupyter. Et pour commencer dans le champ de la recherche, dans ce domaine qui est le tien, Nicolas, Jupyter est très utilisé.
Voilà, le gros intérêt, et notamment donc du carnet, c'est sa flexibilité, c'est le fait d'avoir un unique outil qui va permettre de faire un petit peu tout le champ de travail dans lequel on va pouvoir réfléchir, dans lequel on va pouvoir calculer, dans lequel on va pouvoir transmettre. Et donc ça va permettre d'accompagner toutes les étapes de la recherche, que ce soit les phases d'exploration où on ne sait pas du tout ce qu'on va voir et on prend des objets, on calcule avec, on voit qu'est-ce qui en sort, on va vouloir observer des phénomènes. Et puis après ces phénomènes, on va vouloir les transcrire, notamment avec des carnets de laboratoire. Et puis ensuite interpréter ça, garder des notes au fur et à mesure de ce qu'on fait, et puis aller jusqu'à la publication et la transmission. Et le fait de pouvoir garder ce lien, non seulement entre calcul et narration, et de pouvoir choisir à toute étape un petit peu où est-ce qu'on place le curseur entre les deux, donne beaucoup de souplesse.
Et c'est nouveau ce concept de carnet numérique ou notebook en anglais ?
Alors, pas du tout. De mon point de vue, je l'ai découvert au début de ma thèse en 1994, donc ça remonte déjà, et puis c'est déjà à l'époque, c'était quelque chose qui n'était pas nouveau. Ce qui va être vraiment nouveau, c'est qu'à l'époque, il y avait le système de calcul Maple qui avait son système de carnet numérique, et puis il y avait le système de calcul Mathematica qui avait son carnet numérique, et puis MATLAB qui avait son carnet numérique, et puis etc. Donc chaque système dans son coin avait développé un petit peu cet outil. Et là, ce qui a vraiment évolué, c'est le fait que grâce au logiciel libre et grâce à, en mettant un gros accent sur l'interopérabilité, il y a toute une communauté qui s'y met ensemble pour développer un outil qui pouvait fonctionner non pas avec un système, mais une collection de systèmes. Et donc, on a mentionné tout à l'heure le nom de Jupyter, on se demandait pourquoi un Y dans Jupyter. Tout simplement parce que le nom vient de Julia, Python, PY, et R, qui est un autre système de calcul statistique. Et puis maintenant, depuis Jupyter, on peut interopérer avec C++, avec à peu près tous les langages qui sont existants. Donc ça permet vraiment aux chercheurs de ne pas avoir réinventé, recomprendre une interface différente à chaque fois qu'ils veulent passer d'un système de calcul à l'autre, et puis de focaliser tous les efforts, tout ce qui est un petit peu alternatif. Tiens, je veux faire un bouquin, tiens, je veux faire des diapos. On n'a pas besoin de chacun refaire son système dans son coin, on peut juste utiliser les mêmes infrastructures. Et puis après, un des autres gros facteurs qui a fait que ça a vraiment explosé par rapport aux usages avant, c'est que ça ouvre toute une porte sur toute la masse de logiciels libres qui s'est développée au niveau du calcul. Et là, on peut dire qu'en 20 ans, 30 ans, il y a vraiment une révolution entre une époque où à peu près tout était verrouillé dans MATLAB, Mathematica, etc. Et puis maintenant, où on peut à peu près faire, sauf dans des domaines très pointus, on peut faire à peu près tous les calculs que l'on souhaite entièrement libre.
Alors, tu parles de cette époque où tout était verrouillé, et tous les trois, on s'est rencontrés dans un événement qui s'appelait les Open Science Days, les journées pour la science ouverte, qui se déroulaient au mois de décembre dernier à Grenoble. Là, j'ai entendu vos interventions, j'ai beaucoup aimé la façon dont vous parliez de cet écosystème de logiciels libres Jupyter, et notamment les liens que vous faites avec le logiciel, entre le logiciel libre et la science ouverte. Sylvain, logiciel libre, science ouverte, pour toi, ça marche ensemble, tu peux nous expliquer ?
Oui, je pense que dans la science, plus que dans n'importe quel autre domaine, le fait que le logiciel soit ouvert est particulièrement important. Parce qu'il y aurait une contradiction vraiment intrinsèque entre le fait d'essayer de mieux comprendre la nature et de mieux comprendre le monde dans lequel on vit, et le faire avec des outils fermés. En plus de cette contradiction presque épistémologique, le fait d'utiliser des logiciels libres permet d'adresser une très grande quantité de cas d'usage et dans une très grande diversité de cas d'usage qu'on rencontre moins dans d'autres domaines que dans les sciences, parce que dans les sciences, on va très vite s'attaquer dans des différents laboratoires de recherche à des questions très spécifiques qui seront sans doute pas aussi facilement adressable avec des logiciels fermés, peu extensibles, peu interopérables. Donc je pense que le logiciel libre est particulièrement important pour les sciences, et d'ailleurs ça fait vraiment partie de l'ADN de la recherche depuis longtemps avant le mouvement du logiciel libre.
Alors il y a une notion de transparence, il y a une notion aussi peut-être de réplicabilité des calculs qui sont faits avec un logiciel libre. Nicolas, dans ta pratique de chercheur, c'est quelque chose qui va de soi ?
Voilà, ça, alors qui ne va pas forcément de soi, c'est un problème difficile, et en fait c'est même un vrai domaine de recherche sur comment est-ce qu'on peut arriver jusqu'à la reproduction parfaite. Mais le point là, et on va retrouver la bonne vieille analogie à propos du logiciel libre, que c'est bien d'avoir un gâteau, mais ce qui nous intéresse, c'est d'avoir la recette du gâteau pour pouvoir refaire le gâteau, pour pouvoir adapter le gâteau, pour pouvoir changer sa recette et la distribuer aux autres. Et là, en fait, on est dans les cas où on est souvent en train sur les problèmes très techniques, où ça serait de la haute cuisine, l'équivalent. Et la recette, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi les tours de main. Comment est-ce qu'on fait ? Il suffit pas d'avoir juste une description rapide de quelles vont être les différentes étapes, mais on a vraiment besoin d'avoir tous les éléments qui permettent de reproduire le calcul. Et là, c'est là où les carnets numériques sont un bout de la solution. Alors il y a plein de problématiques qui se posent et ça ne résout pas toutes les problématiques, mais au moins ça permet de donner une solution au problème de je veux donner à la fois une description complète du calcul qui va être mené, en l'expliquant pour qu'un humain puisse comprendre ce qui s'est passé, et en le comprenant du coup pouvoir l'adapter, mais en même temps je veux que la même description soit compréhensible par un ordinateur pour que l'ordinateur puisse relancer l'intégralité du calcul. Donc là, voilà, ce que apporte vraiment le carnet numérique, c'est de pouvoir entremêler les deux. Là encore, c'est pas une idée nouvelle, on est autour des questions qui avaient commencé avec le literate computing, literate programming à l'époque, et qui maintenant autour du literate computing, mais c'est vraiment cette question d'arriver à mêler quand on parle à l'humain et quand on parle à la machine, pour qu'après l'humain puisse reprendre et réadapter et refaire reproduire complètement.
Des programmes informatiques avec des sous-titres en langage humain, en quelque sorte.
Exactement. Ou des programmes humains avec des sous-titres à l'ordinateur. C'est vraiment, il y a les deux.
Les deux sont mêlés.
Les deux sont mêlés, et à l'origine du literary programming, il y a des personnes dont une des citations, c'était un programme est conçu d'abord pour parler à un humain, et incidemment, éventuellement pour être exécuté par une machine. Mais voilà, on est vraiment en train de parler à un humain et de transmettre de l'information à un humain.
Génial. Alors dans cet événement, les Open Science Days, qui se déroulaient sur le campus de Grenoble, dans l'auditoire, il y avait des universitaires, des enseignants-chercheurs, des ingénieurs de recherche au CNRS, des doctorants à l'INRIA. Donc voilà, un auditoire très académique. Mais en fait, ce que vous m'avez expliqué à la pause, c'est que Jupiter, on le rencontre aussi énormément dans l'industrie, et ça c'est ton domaine, Sylvain, tu connais bien ce champ-là. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'utilisation de Jupiter dans le monde industriel ?
Oui, bien sûr. Le Jupiter, c'est venu du monde académique. Les fondateurs du projet, Fernando Pérez et Brian Granger, ont essayer de résoudre un problème qu'ils avaient dans le contexte de leur recherche, et d'avoir une version plus interactive de ce qu'on appelle les carnets de recherche qu'on trouve souvent en sciences physiques, qui sont ces sortes de littéralement de cahiers dans lesquels les gens notaient leurs résultats, faisaient des petits dessins et des figures. Et il y a une vraie filiation entre les premiers carnets de recherche de Galilée, quand il a justement découvert l'astre, les lunes de Jupiter plutôt, et les carnets numériques de Jupiter avec un Y, donc l'objet qui nous intéresse aujourd'hui. Et en résolvant ce problème de l'interactivité, de la création d'un carnet numérique interactif, ils ont en fait aussi résolu un problème qui se posait beaucoup pour les ingénieurs. En fait, il y a une vraie dichotomie entre un informaticien qui serait en train de implémenter une solution relativement connue d'une façon déterminée, par exemple, je dois implémenter un certain protocole de communication, et un ingénieur plus proche de la recherche comme un data scientist qui a un objet qu'il étudie, comme un dataset ou un jeu de données qui serait relativement inconnu et dans lequel il essaie de trouver des corrélations et de qu'il essaie de mieux comprendre. Et dans l'interactivité, dans le genre de travail qu'ils doivent faire, en fait, il y a une part importante d'interactivité. C'est-à-dire, on veut essayer quelque chose, tracer une figure, se rendre compte qu'on s'est trompé et vite pouvoir itérer et améliorer ce qu'on fait. C'est très différent finalement de... Donc le calcul interactif finalement c'est un métier très différent du développement logiciel finalement et cet outil qui avait été fait par des chercheurs et pour des chercheurs s'est avéré être extrêmement utile en data science en particulier. Et aujourd'hui c'est vraiment devenu une des solutions principales. Par exemple pour les plus visibles, les géants du numérique comme Google, Amazon... ont leur principale plateforme de data science basée sur Jupyter, donc avec Google Colab, Amazon SageMaker, Microsoft également. Mais c'est pas les seuls en fait. Finalement, la plupart des grandes entreprises qui embauchent et qui emploient des data scientists et des ingénieurs, finalement, ont des déploiements divers et variés de variations autour de Jupyter en interne. Et donc dans nos estimations actuelles, on compte dans les 10-15 millions d'utilisateurs, plus de la moitié d'entre eux sont en fait des professionnels et pas des gens du milieu académique.
Oui, alors en effet, si les géants du numérique sont prescripteurs de cet écosystème logiciel Jupyter, on comprend bien pourquoi on arrive à avoir des millions, dizaines de millions d'utilisateurs. Vous nous direz plus tard si ces utilisateurs permettent aussi d'avoir des contributeurs en nombre suffisant pour assurer la maintenance et le développement de Jupyter. Mais avant ça, j'aimerais qu'on parle un petit peu de Jupyter comme outil pédagogique, Jupyter dans l'enseignement. Alors Nicolas, tu es prof, passionné je crois de formation à l'informatique, au code. Donc est-ce que tu peux nous parler de Jupyter dans l'enseignement et puis peut-être dans les différents degrés de l'enseignement, de l'élémentaire au secondaire en passant par le supérieur?
Et en fait, on va retrouver exactement ce qu'a mentionné Sylvain juste avant. C'est le fait que, habituellement, quand on parle de développement logiciel, on a un silo avec, d'un côté, on a les développeurs de l'outil, qui ont l'expertise, la connaissance, etc., et de l'autre côté, les utilisateurs. Et la force de Jupyter, c'est justement d'avoir cette flexibilité qui fait qu'on peut à la fois être du côté « j'écris du code » ou du côté « j'utilise du code, je le modifie ». Et ça, c'est exactement ce que l'on veut dans le cadre d'un cadre d'enseignement. On va avoir l'enseignant expert qui va concevoir du matériel, qui va pouvoir le faire parce qu'il a une vision globale, qui va pouvoir transmettre ce même document à d'autres enseignants qui n'ont peut-être pas la même compétence, mais qui vont pouvoir suivre ce qui est fait, qui eux-mêmes vont pouvoir le passer aux étudiants, qui au début vont pouvoir utiliser des feuilles toutes faites, donc au départ, ils vont juste lire un document. Et puis, ce document va les inviter à faire des petites modifications, explorer, tiens, là, il y a un petit exercice à faire. Et puis, au fur et à mesure, on va pouvoir guider l'étudiant pour qu'il soit de plus en plus autonome et il soit en capacité, parce qu'il a acquis l'expertise et la compréhension, de pouvoir lui-même rédiger ses propres demandes, gérer ses propres calculs. Donc, on a commencé à déployer ça en 2017 à Paris-Saclay, pour des cours de calcul, pour des cours de programmation. Et l'idée, c'était vraiment, le gros progrès, c'était vraiment d'essayer d'autonomiser les étudiants, notamment parce qu'avant, on avait un peu cet effet où d'un côté, ils avaient le sujet de TP, de l'autre côté, ils avaient la feuille où ils avaient une action à faire, et puis un terminal éventuellement est tapé, et rien que le fait de passer d'un document, d'une zone à l'autre, etc., ils se perdaient dedans. Donc là, avec un document, on peut arriver à donner une trame narrative, que l'étudiant va suivre. Donc, en plus, on rentre en plein dans le mode de fonctionnement. Je scroll sur WhatsApp, TikTok, etc. Donc, ils sont dans un mode où je parcours un document de manière linéaire. Ils ont vraiment cette habitude, ce cadre-là. Donc, ils peuvent suivre un document. Mais après, dans ce document, c'est pas juste un document à lire où on risque de se perdre ou juste de scroller et de passer à autre chose. Mais on peut faire de la micro-scénarisation avec là, hop, on s'arrête. Là, il y a un petit calcul à faire. Là, je t'ai donné une ligne de code, mais elle ne marche pas. Est-ce que tu peux la changer? Là, bah tiens, juste en dessous, il faudrait faire ce petit calcul. Là, vas-y, fais quelque chose et je vais te dire si c'est bon. Ah non, c'est pas bon, je te mets un gros signal rouge et peut-être ce serait le moment de faire une pause et de réfléchir. Donc, on a vraiment cette possibilité de donner des documents. Donc, en début de TP, on leur donne un paquet de documents. Et après, les étudiants, en fait, on leur dit « avancez en autonomie, à votre vitesse ». Et ça, c'est super important chez nous, notamment avec l'arrivée de NSI, qui fait qu'on a chez nous dans nos
NSI.
Oui, NSI. Numérique. Donc c'est les enseignements au lycée numérique et sciences de l'information. Donc les enseignements d'informatique en très court. Et donc nous, je suis dans une formation Math Info, et une de grosses difficultés, c'est qu'on a des étudiants qui ont suivi ça et d'autres non. Et donc, il y en a un différentiel de niveau qui est vraiment, vraiment considérable. Et donc là, le fait de pouvoir donner des documents et de dire aux étudiants « allez à votre vitesse », ça permet à ceux qui sont à l'aise d'aller à toute vitesse et de venir rapidement aux choses plus avancées. Et puis, ceux qui ont plus de difficultés vont pouvoir prendre leur temps. Et du coup, moi, mon rôle d'enseignant est très différent. C'est pas « faites ça, faites ça, faites ça ». C'est plutôt « je surveille comment ça se passe et j'essaie de voir ceux qui avancent ». Et comme les étudiants sont autonomes, parce que ils ont en gros toute l'information sous la main, je suis beaucoup moins souvent interrompu par « Eh monsieur, je suis bloqué, je ne sais pas quoi faire, etc. » Et ça, ce temps qui est libéré, ça me permet de m'asseoir, de vous repérer ceux qui en ont le plus besoin cette séance-là, pour n'importe quelle raison, de m'asseoir à côté d'eux, et je peux décider de passer 20 minutes à côté d'un étudiant juste pour aider cette séance-là, sans difficulté. Alors, en ayant un groupe de 30 étudiants. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui nous a beaucoup apporté. On s'attendait à ce que ça arrive, mais on n'était pas sûr. Et on a vraiment, vraiment repéré que ça marchait bien. Et puis, donc, du coup, on a discuté avec d'autres collègues. Ça s'est réparti. Donc maintenant, on a des collègues en géosciences, même en droit, en physique, en biologie, etc., qui utilisent les mêmes outils, là encore, pour accompagner du calcul. En voyant ça, on s'est dit, bon, ça a l'air d'être bien utile à l'université, depuis la licence jusqu'au master, doctorat, puis après la recherche. On se demandait peut-être que justement pour l'enseignement de NSI ou autre, ça pourrait être intéressant. Mais ça restait, voilà, tant que je n'ai pas vu des étudiants fonctionner avec un outil, je ne crois pas que ça marche. Ce qui m'a convaincu que ça pouvait être pertinent, c'est qu'il y a une initiative de l'Académie de Paris, qui a été rejointe ensuite par l'Académie d'Orléans, qui a été de déployer un service Jupiter pour les lycées. Et donc ça fait 2 ans et demi qu'ils ont commencé, et en 2 ans et demi, ils en sont maintenant à 500 000 utilisateurs.
Donc ça, c'est le projet Capital, aussi avec un Y, c'est ça?
Exactement.
Pour Python.
C'est exactement le projet Capital, il n'y a pas eu de campagne massive d'information, c'était juste qu'il y avait un besoin, notamment du fait de l'introduction de NSI. Et là maintenant, chaque semaine, ils ont 100 000 utilisateurs qui reviennent, et donc 100 000 élèves des lycées qui l'utilisent.
Donc est-ce qu'on peut dire en quelque sorte que le notebook, c'est un outil qui réunit dans un environnement unique, à la fois le support de cours, le tutoriel, à la fois des exercices, mais qui en plus va être interactif, au sens où il va permettre aux étudiants d'expérimenter par eux-mêmes différents scénarios, différentes hypothèses. Et comme tu l'as dit précédemment, ça permet de faire de l'individualisation, d'adapter vraiment le support d'enseignement au rythme, au niveau et aux attentes de l'étudiant.
Exactement. Et le tout donc avec un système qui en fait est très léger en termes de ce qu'il impose, c'est très souple. Et donc c'est vraiment l'enseignant qui décide, tiens, là ça va être des diapos, mais finalement ces diapos, les étudiants peuvent les travailler en autonomie chez eux parce que par exemple l'étudiant est à l'hôpital et ne peut pas venir en cours. Il y a toute cette souplesse. Et accessoirement, c'est aussi des outils qui sont basés sur les technologies web. Et donc ça veut dire que moi, quand je fais un calcul, peut-être que le calcul se fait sur ma machine, ou bien il se fait sur le serveur de la fac parce que je suis chez moi et que j'ai pas les outils sur ma machine, ou bien voilà, ça s'offre à une quantité de scénarios où ça me permet d'accéder à des ressources de calcul qui sont sur un centre de calcul à un endroit, donc ça donne vraiment toute cette flexibilité.
Et j'imagine que au moment de la crise sanitaire, ces outils très adaptés pour l'enseignement à distance ont dû être bienvenus.
Voilà, exactement, et c'est l'occasion où en fait on a réécrit beaucoup de nos documents pour justement, notamment, le truc qui marchait vraiment pas pendant la crise sanitaire, c'était l'équivalent des amphis. Se mettre devant un ordinateur avec potentiellement peut-être 300 étudiants, on n'a aucune idée de ce qui se passe derrière, ça marchait juste pas. Donc là, ce qu'on a fait, c'est vraiment rebasculer les documents sous forme pour qu'ils travaillent en autonomie. Et donc mes séances d'amphis, en fait, c'était ils lisaient les documents et ils me posaient les questions quand j'avais. Donc, alors, répondre aux questions de 150 étudiants qui travaillent en parallèle, c'était intéressant, c'était un joli challenge. Mais voilà, c'était beaucoup plus vivant que tout ce qu'on peut faire de manière frontale qui marchait juste pas.
Super, donc on parle de 10-15 millions d'utilisateurs de l'écosystème logiciel libre Jupiter dans le monde de la recherche, dans le monde de l'industrie, dans l'enseignement. On est l'April, et donc moi j'ai envie de te demander Nicolas, mais alors Jupiter c'est un logiciel libre, mais pourquoi c'est important?
Alors c'est un logiciel libre, mais en fait il faut surtout le penser, c'est une communauté, c'est des individus. Des individus du monde entier, donc ça a commencé aux États-Unis, mais maintenant c'est en Europe, c'est vraiment dans le monde entier. Des individus qui, ça a commencé par la recherche, mais aussi des enseignants, il y a des gens, des associatifs, des personnes dans les sociétés, dans les banques. Et donc tous ces gens-là, qui ont a priori sont dans des univers complètement différents, ou même au niveau recherche, il faut penser physiciens, biologistes, etc., des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de se parler, qui se sont mis ensemble parce qu'ils avaient un besoin commun, et ce besoin commun, c'était ce fait de pouvoir faire du calcul avec l'humain au milieu, ce besoin de calcul interactif. Et ça a été possible grâce au logiciel libre, bien sûr, parce qu'il faut un pot commun, et pour formaliser ce pot commun, qu'on ne se pose pas sans arrêt les questions de propriété intellectuelle, oh non, je ne vais pas utiliser ça parce que c'est développé par telle boîte qui risque de me poser tel type de conflit. Donc le logiciel libre est très important, mais tout aussi important, il y a eu un effort énorme en termes de standardisation, par exemple pour le format du carnet Jupiter, pour que, ben, certes, il y a des outils de la communauté Jupiter, mais lorsqu'on écrit un carnet, ce carnet peut être importé dans plein d'autres outils qui sont développés par des gens qui sont dans d'autres communautés. Et ça se passe bien parce que justement, le cœur, ce n'est pas tellement le fait de faire un carnet, mais ça a été de définir, voilà le format dans lequel on peut écrire un carnet. Donc c'est devenu une sorte de lingua franca.
Ça me fait penser à OpenDocument, qui est connu pour être le format d'échange des fichiers de la suite bureautique LibreOffice, mais qui en fait est un format de fichier ouvert, qui est parlé par plusieurs centaines de logiciels libres, parce qu'il est ouvert. LibreOffice est le plus connu et le plus répandu, mais aujourd'hui, il y a plusieurs dizaines de logiciels qui utilisent le format OpenDocument. Alors, est-ce qu'il se passe la même chose avec le format des notebooks, Sylvain ?
Oui, absolument. Le format des notebooks est très populaire et il y a même de nombreuses solutions propriétaires qui l'ont adopté comme nativement. Mais au-delà même du format de fichier, toutes les couches logicielles et technologiques qui composent Jupiter sont en fait spécifiées par leur interface, au sens les protocoles de communication, les formats de fichiers qui sont supportés, les schémas des messages dans les protocoles qui permettent à tout à chacun en fait de remplacer une seule partie de cette pile technologique et d'utiliser le reste. Par exemple, GitHub, donc la solution de partage et de collaboration aujourd'hui possédée par Microsoft, fait le rendu nativement des notebooks de Jupiter en ligne dans leur interface graphique.
Donc c'est un peu comme Internet en fait, c'est des briques avec des formats ouverts et des protocoles standardisés qui communiquent ensemble, et je peux remplacer n'importe quelle brique ou rajouter ma propre brique et la connecter avec l'écosystème, si elle respecte les protocoles standards, ouverts et accessibles à tous.
Exactement. Un des buts, c'était vraiment de définir, en quelque sorte, le HTTP du calcul scientifique. Comment on interagit avec un interpréteur d'un langage, de façon standardisée, indépendamment du langage. Et toute l'infrastructure, en fait, a été conçue d'abord par une spécification et ensuite une implémentation. Une spécification, c'est-à-dire par comment ce nouveau composant va interagir avec le reste de l'écosystème.
Je crois que vous nous avez fait comprendre que Jupiter, en fait, c'est bien plus qu'un logiciel. C'est un logiciel, mais c'est aussi des protocoles, des standards ouverts de fichiers d'échange. C'est aussi une communauté d'utilisateurs, de contributeurs, dont la diversité fait aussi la richesse, je crois. Le moment est peut-être venu de la pause intermédiaire.
Oui, on peut faire une pause musicale. Avant la pause, j'ai quand même relayé deux questions, parce que moi, je trouve ça passionnant, votre échange, et apparemment Marie de Dille aussi, qui nous suit sur le salon web de l'émission. Alors, une première question, elle demande, peut-on trouver des exercices Jupiter en ligne ?
Alors, comment ça commence à se structurer ? Alors, par exemple, si on regarde ce Capital, le projet de déploiement de Jupiter pour le scolaire, une des grandes forces, ça a été justement de très rapidement, non seulement mettre donner la possibilité d'accéder à ces outils en ligne, mais aussi de définir une bibliothèque qui ont permis aux enseignants d'échanger. Et ça, ça a été très important, notamment dans le cas de nouveaux enseignements type NSI, parce que parmi les enseignants, il y avait des experts qui se sont développés leurs propres cours, mais il y avait aussi beaucoup d'enseignants qui se sont retrouvés du jour au lendemain à dire « Ah, bah demain, vous enseignez les maths, la technologie, demain, vous allez enseigner la programmation. » Et donc là, le fait d'avoir cette bibliothèque, c'était quelque chose qui était vraiment essentiel dans cette réussite. Alors après, il faudrait passer à la même chose, mais plus ouvert et plus large. C'est en train de se structurer. Pour le moment, on trouve des millions de carnets Jupiter. Ce qui manque un petit peu, c'est les outils pour les chercher, les trouver plus facilement, les indexer.
Est-ce qu'on peut convenir, c'est que après l'émission, tu nous communiqueras tes meilleurs liens vers les ressources les plus pertinentes et on les mettra sur le site de l'émission sur Libre à vous.
Avec grand plaisir. Et puis ce qui va aller aussi avec, c'est on a mentionné les journées du libre éducatif qui ont eu lieu il y a un an, les prochaines sont dans 2 jours, et justement une des choses qui va être discutée, c'est des plateformes pour pouvoir plus facilement partager des communs numériques pour l'éducation.
Voilà, donc elles auront lieu à Rennes et on en parlera effectivement en fin d'émission. Ah, on va faire la pause musicale peut-être, effectivement, puis on ouvrira après la pause musicale, je relayerai la seconde question de Marie-Odile, mais là effectivement je pense qu'il est temps de se reposer un peu les méninges avant de se replonger dans ce sujet passionnant. Je vous propose d'écouter Jacked Up par Josh Shapiro et on se retrouve dans environ 3 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune, 93.1.
I saw this old ride listed for sale, 10 years old and it looked like hell. All my friends said don't, I replied, oh lord, it's an F-150 long bed Ford. It stores my tools, can haul a load, but it drinks up gas and now I'm broke. Well, I jacked it up, put on lip kit, off-road tires with B-logs on. Dude, it's got a little attitude, ain't it grand? It does the mud, it wells the sand, it defines me. It's a statement if you ever think I'll sell it, good luck. American made, and it's my truck. Before I was just another guy, look at me now, I'm way up high. Might look like I have it just for show, cause it'll dust up and it dirt road. I jacked it up, put on lip kit, off-road tires with B-logs on. The sand, it defines me who I am. It's more than practical, it's a statement. If you ever think I'll send it, good luck. American made, and it's my truck. It stores my tools, can haul a load, but it drinks up gas, and now I'm broke. Off-road tires with B-logs on. Dude, it's got a little attitude, ain't it grand? It does the mud as well as the sand. It defines me who I am. It defines me who I am. I jacked it up, put on lip kit, off-road tires with B-logs on. Dude, it's got a little attitude, ain't it grand? It does the mud as well as the sand. It defines me who I am. It's more than practice, it's a statement. If you ever think I'll sell it, good luck. American made, and it's my truck. It's my truck. F-150, baby.
Nous venons d'écouter Jacked Up par Josh Shapiro, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution CC BY, un artiste dont vous pourrez trouver une présentation sur le superbe site auboutdufil.com que l'on remercie pour leurs nombreuses suggestions de musique libre.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
Je suis Étienne Gonu de l'April, Jean-Christophe Becquet, vice-président de l'association, et ses invités, Sylvain Corlet et Nicolas Thierry, nous parlent de Jupiter avec un Y, un écosystème de logiciels libres de calcul et une communauté. N'hésitez pas à participer à notre conversation au 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton de chat. L'occasion de préciser ce que lors de la première partie de cet échange, il a été question de science ouverte et je vous invite à écouter ou lire l'émission numéro 130 de Libre à vous dont le sujet principal portait justement sur le sujet de la science ouverte. Alors avant la pause, j'évoquais voilà, des questions d'une de nos auditrices, Marie-Odile, qui avait une deuxième question. Celle-ci était à propos des GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, que vous nous avez décrit comme utilisant également Jupiter. Elle se demandait s'il s'agissait de passagers clandestins ou s'ils participaient à la communauté.
Je vais répondre à cette question. C'est Sylvain. On ne va pas distribuer les bons et les mauvais points, mais... Disons qu'il y a des géants du numérique qui contribuent significativement au projet. En particulier, Bloomberg a pendant de nombreuses années employé plusieurs contributeurs et mainteneurs du projet et a même finalement été à l'origine de la nouvelle interface graphique de Jupiter qui est JupiterLab qu'ils ont décidé de développer en partenariat avec le projet de façon libre depuis le début. Netflix a également eu pendant de nombreuses années plusieurs salariés qui contribuaient au projet Jupiter quasiment à plein temps. Aujourd'hui, Google Colab utilise une base de Jupiter, mais interagit moins que la communauté, le fait un petit peu en isolation. Un très bon élève actuellement, c'est AWS, donc Amazon. Alors, on ne les voit pas souvent comme des bons élèves dans leur interaction avec le logiciel libre, avec les différents débats qu'il y a eu avec certains projets qui déployaient en étant en compétition avec des sociétés qui avaient édité ces logiciels. En l'occurrence, dans le cas de Jupiter, il y a toute une équipe de développeurs qui travaillent à plein temps sur le projet dans le cadre de leur plateforme de datation qui s'appelle Amazon SageMaker. Donc voilà, c'est assez variable. C'est pas toujours corrélé avec leur utilisation ou l'ampleur de leur utilisation et malheureusement.
Alors justement dans cet écosystème de géants du numérique, ton entreprise Sylvain CountStack, si j'ai bonne mémoire, 23 salariés.
On n'est pas encore un géant du numérique.
Comment vous travaillez au milieu ou à côté de ces géants? Comment vous faites votre place? Et en fait, pour poser la question plus crûment, comment vous gagnez de l'argent avec du logiciel libre?
C'est une excellente question. C'est une question que je me pose beaucoup moi-même. Donc, oui, effectivement, CountStack est donc éditeur de Jupiter notamment. L'équipe compte. Parmi les 23, peut-être entre 10 et 15 personnes qui contribuent significativement ou une part importante de leur temps à Jupiter, toute la journée, tous les jours. On écrit du logiciel gratuit. Nos clients sont typiquement des grandes organisations qui dépendent fortement de ces technologies, soit dans les produits qu'ils éditent, qu'ils font, soit dans leurs opérations, dans leur fonctionnement interne. Et qui vont faire appel à nous pour développer des nouvelles fonctionnalités, leur fournir du support commercial, les aider quand ils rencontrent des difficultés, et parfois même déployer, créer des extensions, etc. La plupart je dirais que 99% du code qu'on écrit est libre et open source. Quand on doit faire des choses qui ne sont pas libres, généralement, c'est simplement parce que c'est complètement ad hoc et spécifique
sur mesure
à un client et que ça n'aurait juste aucun intérêt quand on doit faire un adaptateur pour un schéma de données propre à une entreprise et qui vraiment n'est utilisé par personne d'autre. On va leur faire leur petit plugin, mais je dirais que l'énorme majorité des choses qu'on fait est libre et open source.
Mais alors du coup, ça me donne envie de te questionner un petit peu plus en profondeur sur la gouvernance du projet. Comment un petit acteur comme QuantStack, quelques dizaines de personnes, peut arriver à discuter d'égal à égal avec Bloomberg, Amazon et les d'autres géants du numérique.
Alors, pour certains, dans certains cas, ces géants sont nos clients. Dans d'autres cas, pas. En fait, c'est vraiment une question complexe sur la gouvernance du projet. Donc, le projet Jupiter, en fait, ça n'a pas été démarré par QuantStack, ça a été démarré par des chercheurs et professeurs aux États-Unis. Il y a plusieurs parties prenantes au développement du projet, à la fois des salariés dans des grandes sociétés, d'autres sociétés de conseil similaires à QuantStack, mais pas en France, aux États-Unis, et nous. Et la gouvernance reflète en fait cette diversité d'acteurs.
Donc, il n'y a pas des conflits d'intérêts entre tous ces gens ?
Si, bien sûr. En fait, la façon dont la gouvernance du projet s'attaque à ce problème, c'est que chacun doit déclarer ses intérêts. Et pour chaque décision, si la personne a un intérêt dans cette décision, elle doit donc le dire. Et c'est aux autres de déterminer s'il y a un conflit d'intérêts. Donc c'est particulièrement important qu'on puisse partager parfois l'existence d'une relation commerciale, simplement du fait que dans un choix technologique, est-ce qu'on va utiliser une librairie A versus une librairie B, est-ce qu'on a déjà des billes dans l'une des deux, etc. Donc il faut absolument être transparent quant à nos intérêts dans ce genre de conversation.
Mais en tout cas, ce que tu as l'air de dire, c'est pas parce que il est question d'argent que ça remet en cause le caractère libre des logiciels qui sont développés et que ça pose des problèmes. Alors ça peut poser des questions, mais ces questions, apparemment, vous avez des outils pour les résoudre, et notamment la déclaration des intérêts par chacun au moment de prendre les décisions importantes pour le projet.
Oui, absolument. Et parfois, il peut y avoir aussi des intérêts entre les différentes personnes des comités, etc. Par exemple, l'un peut être l'employé de l'autre, ou peut chercher à être employé par l'autre. Donc, toutes ces choses, évidemment, sont mouvantes et complexes. Et on est dans une relativement petite communauté, et les gens changent d'affiliation et travaillent ensemble, sont amis ou ne s'aiment pas, et donc c'est le monde réel avec les relations sociales telles qu'elles sont, et donc il faut naviguer dans ces complexités-là. Finalement, c'est beaucoup plus complexe que une société qui aurait une hiérarchie et une personne qui décide tout en haut. Il faut atteindre et obtenir un consensus. Et là, ce que j'ai appris de cette expérience, c'est que la transparence a beaucoup d'atouts, parce que ça permet de lever aussi parfois des suspicions, justement de faire en sorte que les gens aient vraiment confiance. Et donc, même des gens qui ne s'aimeraient pas forcément beaucoup, des gens qui auraient des désaccords fondamentaux sur des choses indépendantes de logiciels libres dans la vie, mais qui auront confiance dans les intentions des uns et des autres, et qui, en se regardant dans le blanc des yeux, sauront collaborer et faire quelque chose ensemble.
Confiance, transparence, clé de la gouvernance d'un projet libre mondial. Tu nous as parlé tout à l'heure de ton rôle au sein de la fondation NumFocus, que tu as comparé à la fondation Mozilla ou Apache. Donc, une fondation, ça sert à quoi pour les logiciels libres ?
Alors, un logiciel libre, en fait, dans la hiérarchie, je dirais des abstractions communes qu'on a créées pour fonctionner dans une société, comme l'argent, ce que c'est qu'une entreprise, c'est assez bas, en fait. Ça n'a pas d'existence légale, un projet open source, indépendamment du reste. Et parfois, justement, quand on a besoin de payer des gens, de gérer de la propriété intellectuelle, de logos, quand on a besoin de défendre justement un projet vis-à-vis d'un mauvais acteur, il faut avoir une entité légale qui endosse ce rôle. ça peut être très cher de créer une entité légale. En France, c'est assez simple. On a un système associatif qui permet de créer une association, loi 1901, à peu de frais. C'est un petit peu plus compliqué dans beaucoup d'autres pays. Donc la fondation Nome Focus, elle sert d'entité légale commune à de nombreux projets open source qui sont affiliés à la fondation. Donc le terme légal américain pour ça, c'est le sponsoring fiscal. Ça n'a rien à voir avec les impôts, c'est littéralement cette notion de servir d'entité légale pour de nombreux projets ou de nombreux communs, en quelque sorte.
C'est à nouveau une mutualisation de ressources et de moyens par des projets éventuellement qui peuvent être de petite taille et qui se mettent ensemble. En français, il me semble qu'on emploie parfois le terme association ombrelle, pour dire que c'est une entité en fait qui va protéger et soigner plusieurs projets qui tout seul ne pourrait pas s'offrir un service comptable, un service juridique, un service communication, etc.
Voilà, donc Nome Focus fournit des services entre guillemets comptables, financiers, légaux, donc autour de la propriété intellectuelle, sur les marques, les logos, juridiques, et aussi une assistance dans la demande de financement, des choses comme ça.
Ok, ça c'était sur la partie Jupiter et monde économique. Et peut-être revenir vers Nicolas pour parler un petit peu de Jupiter, revenir un peu sur Jupiter et secteur public. À part les expériences que tu as mentionnées dans l'enseignement, est-ce que tu as le sentiment que le secteur public s'implique de la bonne manière dans l'écosystème Jupiter, ou alors est-ce que on profite d'être à la radio pour lancer un appel?
Alors le système est un petit peu particulier et c'est une grosse problématique auquel on réfléchit avec tous les collègues, c'est comment est-ce qu'on développe du libre dans le milieu académique où on est. Et en fait, pendant très longtemps, ce qui marche bien, c'est que la propriété du milieu, notamment au niveau de la recherche, c'est que c'est une collection d'acteurs, donc des enseignants-chercheurs, qui ont une grosse liberté dans ce qu'ils doivent faire, mais ils ont un métier. Donc leur rôle, c'est de faire de l'enseignement, c'est de faire de la recherche. Après, comment est-ce qu'ils s'organisent pour le faire? Quels outils dans quoi ils s'investissent? Comment ils ont une très grande liberté pour le faire? Donc du coup, un truc qui marche très bien, c'est le côté développé par les utilisateurs, pour les utilisateurs. Un chercheur a besoin de telle bibliothèque de calcul, il va se mettre avec des copains, ils vont se mettre ensemble pour développer ces outils parce qu'eux-mêmes vont en avoir besoin. De même pour de l'enseignement. Ça marche bien à chaque fois que c'est assez centré métier, c'est-à-dire l'expertise qu'il faut pour développer l'outil est une expertise qui est proche de ce que fait la personne de l'enseignement, de la recherche. Ça a donné de très belles réussites avec des outils comme Scikit-Learn ou d'autres bibliothèques de calcul qui ont été développées comme ça par des collectifs de chercheurs. Là où ça commence à devenir plus difficile, c'est lorsqu'il s'agit de plus d'infrastructures, lorsqu'il s'agit de construire les routes et les ponts sur lesquels on va pouvoir faire fonctionner ces logiciels. Et un outil comme Jupiter, c'est quelque chose qui est technique, qui est assez éloigné en termes de la façon dont ça fonctionne du monde de la recherche, c'est-à-dire moi, ce que je fais, moi, avec mes objets mathématiques, n'a rien à voir avec la programmation web réseau qui doit faire. Et donc, à la fois, je n'ai pas l'expertise en tant qu'enseignant-chercheur pour contribuer vraiment au cœur de Jupiter. J'ai pas l'expertise. Et d'autre part, j'ai plus de mal à te justifier. Parce qu'à la fin, je dois dire, j'ai fait de la recherche. Alors quand je dis, pour pouvoir faire ma recherche, j'ai dû faire tel outil de calcul, ça passe. C'est valorisé. Mais quand on dit j'ai développé à telle bibliothèque qui a l'autre bout du monde, c'est plus difficile à justifier. Et donc du coup, une problématique qu'on a eue dans pas mal de logiciels comme ça, c'est comment aller au-delà de la couche métier, mais aller plus profondément et arriver à financer le développement de la partie vraiment infrastructure qui est derrière. Alors là, on a la chance dans le cas de Jupiter que c'est mutualisé à une telle échelle que à l'échelle de la communauté, avec les acteurs privés, publics, etc., il y a des moyens qui arrivent à faire un certain nombre de choses.
Tu veux dire que l'acteur public est un petit peu opportuniste et attend que les GAFAM financent le développement de l'outil pour pouvoir ensuite s'en servir?
on bénéficie d'une collaboration. Alors, et de fait, dans les besoins, et on a travaillé sur ce genre de choses, mais c'est arriver à non seulement prendre des décisions à l'échelle des individus dans le public, mais arriver à prendre des décisions collectives, et souvent ces décisions collectives, c'est tout ce qui est gestion d'appel à projet, pour arriver à demander à l'institution, là il y a un objet qui est important, il faut investir dedans. Alors, la bonne nouvelle, c'est que l'institution a beaucoup évolué depuis 20 ans. Il y a 20 ans, quand on disait on va développer du logiciel libre, on demandait pourquoi vous faites ça, il fallait justifier, il fallait même se battre des fois pour dire oui, c'est vraiment du logiciel libre qu'on
vous, vous êtes payé pour publier des articles, pas pour développer du code.
D'une part, et d'autre part, si votre outil il est utile, il faut que vous le vendiez. Il faut que ça rapporte de l'argent à l'université.
Les fameuses agences de valorisation dans les universités.
Voilà. Qui progresse. On a eu un exemple à Grenoble d'une agence où il y avait vraiment une évolution des mentalités, mais c'est quelque chose qui prend du temps.
Et effectivement, la représentante de l'agence de valorisation de l'université de Grenoble avait pris la parole pendant l'événement Open Science Day pour dire si vous voulez faire du logiciel libre, on peut vous aider, on peut vous accompagner. Donc ça dénote quand même une sacrée évolution des mentalités. Ce que tu racontes sur la difficulté de maintenance des infrastructures me rappelle l'échange que j'avais sur un tout autre logiciel, qui est le logiciel GeoTrek de portail de randonnée développé par le parc des Écrins et des Cévennes initialement, et puis aujourd'hui répandu dans plus de 150 territoires partout en France et ça commence à l'étranger, où ce dont il me témoignait, c'était quand on veut rajouter une nouvelle fonctionnalité visible dans GeoTrek, par exemple, on veut savoir gérer les voies d'escalade, on va trouver un territoire qui a des voies d'escalade et qui veut bien faire un marché et financer la fonctionnalité voie d'escalade. Par contre, quand c'est une fonctionnalité de maintenance technique qui ne se voit pas, passer de la version 2 de Python à la version 3 de Python, alors ça, on a énormément de mal à le financer, et également le temps d'animation de la communauté. Donc eux, par exemple, ils font tous les deux ans les rencontres GeoTrek, où ils invitent tous les utilisateurs GeoTrek à se mettre pendant deux jours dans une salle avec des présentations, etc. Bon, il faut réserver une salle, organiser les intervenants, faire le programme, réserver le repas, etc. Et ça, ça avait l'air de reposer sur la bonne volonté quasi bénévoles de quelques-uns sans arriver à le financer. Est-ce que c'est aussi ton sentiment, Sylvain, que on arrive à vendre des nouvelles fonctionnalités, mais par contre quand il s'agit de travailler sur les fondations, les bases du projet, c'est beaucoup plus difficile?
On arrive généralement à bien communiquer avec nos clients sur le fait que certaines nouvelles fonctionnalités vont nécessiter du travail en amont. Et donc, on arrive à le faire encore, c'est-à-dire à expliquer que on peut pas seulement faire les choses de façon additive. Je voulais rebondir sur une chose qu'on a dit précédemment sur l'interaction du public avec le projet. C'est justement sur ce que disait Nicolas, c'est aujourd'hui, en fait, contribuer, par exemple, à l'interface graphique de Jupiter, ça nécessite une telle sophistication, une spécialisation dans ce genre de choses, qui est pas vraiment une spécialisation que vont avoir les ingénieurs de recherche dans le secteur public, parce qu'ils font du code de recherche, et pas des problèmes, par exemple, d'édition collaborative, de tests de régression visuelle, du système de plugin, d'internationalisation, en fait, toutes ces choses. La somme de toutes ces choses, en fait, devient tellement complexe que même pour quelqu'un et des développeurs expérimentés, il y a un coût d'entrée dans cette technologie qui est beaucoup plus grand qu'il y a une dizaine d'années aujourd'hui. Donc, d'ailleurs, la part de contributions qui vient de chercheurs et de gens du milieu académique, elle a plutôt diminué dans le temps. Et ceux qui restent encore des contributeurs sont des gens, en fait, qui ont grandi avec le projet et ont appris toutes ces choses au fur et à mesure des années, mais pour avoir des nouvelles personnes qui viennent de ce milieu-là pour nous aider, ça devient de plus en plus difficile aujourd'hui.
Dans ta conférence à Grenoble, tu parlais de l'effort énorme qui a été fait pour rendre Jupiter accessible, la notion d'accessibilité aux personnes en situation de handicap. Qui finance de tels travaux ?
Eh ben justement, en fait, j'allais y revenir. Nos clients actuels, pour l'instant, se sont pas tellement intéressés à ces problématiques. Et pourtant, la base d'utilisateurs, nos clients de QuantStack, de ma société, parce qu'on est finalement une société qui on vend notre temps et expertise à la part des utilisateurs qui est prête à dépenser de l'argent pour améliorer Jupiter. Mais en fait, ils ne sont pas représentatifs de la communauté des utilisateurs. Ils sont représentatifs de la communauté des gens qui ont de l'argent pour améliorer Jupiter. Et leurs problématiques ne sont pas forcément les problématiques du public général. En particulier, l'accessibilité, c'est un problème extrêmement important. On estime qu'il y a environ 15% des utilisateurs du web qui ont besoin de certains aménagements d'accessibilité. Et il y a une très grande diversité de handicap et de raisons pour lesquelles un site ou une application web pourrait ne pas être utilisable par quelqu'un. Si on fait des déploiements de Jupiter pour l'enseignement secondaire et pour des millions d'enfants, si on ne veut pas exclure depuis le début une part, peut-être 10% de ces enfants qui auraient, par exemple, seraient malvoyants ou ne pourraient pas faire usage de dispositifs de pointage, eh bien, c'est un vrai problème. Et donc là, c'est peut-être un endroit où le public devrait investir.
C'est important, c'est complexe, et effectivement, on pourrait imaginer que le secteur public soutienne ce type de développement. Bon, aujourd'hui, c'est pas encore le cas. Alors, on me fait signe que le temps va bientôt presser, mais je trouvais intéressant de prendre le temps de cet échange. Il reste deux points en fait que je voulais aborder avec vous. Peut-être en deux minutes, Sylvain, les perspectives sur Jupiter dans les 6 mois, 12 mois qui viennent, là, c'est quoi les changements importants sur le projet ?
Là, la version majeure prochaine de Jupiter Lab, qui est la principale interface graphique de Jupiter, est en version bêta, donc 4.0 bêta. La prochaine version a beaucoup de nouvelles fonctionnalités. Un sujet sur lequel on a énormément travaillé dans les deux dernières années, c'est l'édition collaborative à la Google Doc, qui va permettre à différentes personnes de collaborer ensemble en temps réel sur un document partagé. Je suis aujourd'hui convaincu que l'édition collaborative va devenir omniprésente dans toutes les interfaces de création de contenu en ligne. Mais pas seulement pour des interfaces de création de contenu textuel, comme on le voit dans Google Docs.
Les bloc-notes, les pads, voilà, sur le chapitre, par exemple.
Ça va être le cas pour la photo, la CAO, et Jupiter va avoir un rôle à jouer là-dedans.
Et aussi, du coup, les bloc-notes Jupiter de code.
Oui, et justement. Donc ça, c'est le cas dans la prochaine version. Et en fait, on a écrit les fondations technologique pour le permettre pour d'autres types de contenus. L'accessibilité, il y a eu des améliorations pour la version 4, mais malheureusement, on est encore loin du compte. Et j'espère qu'on aura la possibilité de continuer à travailler sur le sujet dans les mois et les années qui viennent.
Et alors, vous l'avez dit, Jupiter, ce n'est pas que du code, ce n'est pas que du logiciel, et donc une annonce majeure, et j'avais envie que ce soit le point d'orgue de notre émission. Cette année, pour la première fois en France, à la Cité des Sciences au mois d'avril, la JupiterCon. Alors, c'est quoi ce
événement ? Alors, c'est la conférence mondiale sur Jupiter, qui se passe pour la première fois en France et pour la première fois en Europe. Elle a déjà eu lieu deux fois à New York, en 2017 et 2018, puis pas en 2019. Et à nouveau en 2020, on l'a organisé mais en ligne à cause de la fin du monde qu'on a tous vécu. Donc on attend à peu près 1000 personnes à la Cité des Sciences. On a vraiment des intervenants très intéressants qui viennent, dont un prix Nobel d'économie, Paul Romer, qui va venir parler de son usage de Jupiter, mais aussi Alyssa Goodman de Harvard University, et Craig Peter et Corey Green de GitHub, qui vont parler de GitHub Codespaces et de leur usage de Jupiter dans ce contexte.
En tout cas, je trouve qu'on a là un magnifique exemple de collaboration multi-acteurs entre la Cité des Sciences, j'imagine des acteurs publics qui vous soutiennent pour l'organisation de cet événement.
Non, on n'a pas de soutien du public. C'est un événement qu'on organise via la fondation Nofocus et des sponsors principalement privés. Donc et justement, finalement, c'est un peu le mot de la fin par rapport aux relations avec le public, mais là on a donc un logiciel qui est utilisé par une énorme majorité des universités et des laboratoires de recherche scientifique en France, la plupart des entreprises stratégiques. Nous, on fait notre chiffre d'affaires 100% à l'étranger, et on a zéro commande publique aujourd'hui en France sur Jupiter. Donc le passager clandestin aujourd'hui, c'est pas les gens du numérique.
C'est un appel et il mérite d'être entendu. Et je rends l'antenne.
Merci beaucoup. Un grand merci à Sylvain Corlet, à Nicolas Thierry et à Jean-Christophe Becquet pour cet échange qui était vraiment passionnant à suivre et qui sera bientôt disponible en podcast. Je vous propose à présent de faire une pause musicale. Après la pause musicale, nous entendrons une nouvelle chronique, les transcriptions qui redonnent le goût de la lecture. Avant cela, nous allons écouter Agenda par Uben. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune, 93.1.
venons d'écouter Ajada par Uben, disponible sous licence Creative Commons Attribution CC BY, une douce mélodie pour se détendre après un échange intense et passionnant.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
Avant de passer à notre sujet suivant, je vais redonner 30 secondes la parole à Nicolas Thierry qui voulait terminer sur une note positive quand même.
Oui, c'est à propos de l'implication du public. Et notamment, ce qu'on a vraiment remarqué en 20 ans, c'est que autant à l'époque, le libre était quelque chose qui n'était pas du tout compris dans le ministère. Et là, c'est quelque chose qui a complètement évolué. Maintenant, quand on dit qu'on veut faire du libre, c'est quelque chose qui est compris, notamment grâce à une génération de libristes qui maintenant sont dans les ministères. Et une excellente illustration de ça, c'est l'implication maintenant de l'éducation nationale avec les journées du libre dont on va vous parler juste après.
Parfait, merci beaucoup.